Donc, j'ai l'honneur de présenter Daniel Dobbels, écrivain et chorégraphe, qui est également consultant au Fresnoy depuis plusieurs années. Il est l'auteur d'ouvrages sur Bruegel aux éditions MAG et de Nicolas de Staël aux éditions Azan. Il prépare actuellement une création chorégraphique qui sera présentée en novembre 2017 à Beson, intitulée « Sur le silence du temps », quintette pour cinq danseuses sur le concerto numéro 1 pour piano de Béla Bartók. À l'issue de ce colloque, il présentera au Palais de Tokyo, à 16h30, un solo dansé par Carole Quétier, ici présente, intitulé « L'indivisible égard » sur Équatorial de Varèse. Le titre de son intervention est « L'indifférence des rêves ».
Voilà. Évidemment, remercier Alain et le Collège de France de m'avoir invité. C'est plus qu'un honneur, c'est une sorte de trajectoire à inventer, parce que je crois que, enfin, il me semble, sauf à... que la danse n'a pas dû beaucoup traverser ces espaces que sont ceux du Collège de France. C'est un art qui, effectivement, n'est pas au sens strict dominant. C'est un art qui se dit éphémère ou qu'on dit éphémère. Alors qu'en fait, je crois que il a, cet art, une fonction, entre autres, mais aussi une destinée qui ne peut pas, à un moment donné, ne pas concerner chacun d'entre nous, à la fois individuellement et puis aussi, évidemment, collectivement. Après avoir entendu les interventions qui ont pu être faites depuis hier, pour moi, la question, en fait, reste quand même entière, à savoir comment, entre tous ces énoncés, ces savoirs, ces vérités émises, ces lois aussi, qu'elles soient scripturaires ou au contraire scientifiques ou mathématiques ou je ne sais quoi, esthétiques, quelles sont en fait les marges qui resteraient d'une certaine manière au corps, dans ce qu'il a de plus à la fois dépourvu, de plus nu, de plus économiquement faible, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui lui reste comme possibilité d'inventer, alors pourquoi pas, à l'image de ce qui était montré hier à propos de Deligny, ou qu'est-ce qui lui reste possiblement inventer comme ligne de vie, comme ligne de fuite, comme ligne de devenir aussi, qui permettrait à ce corps, sans avoir forcément recours d'ailleurs à des recours technologique ou technique ou calculé, enfin, qu'est-ce qui lui reste comme possibilité simplement pour expérimenter ce rapport simple qui est quel air je respire, quels espacements je puisse inventer pour ne pas être piégé ou réduit à une seule figure ou à une seule fonction ou à une seule détermination d'être. Quelles sont les densités, les qualités de mouvement qui me reviendraient et qui me reviendraient et qui me donnerait quand même la sensation que je suis d'une certaine manière le sujet de mon mouvement. Et non pas tout de suite, ou depuis longtemps, ou depuis un temps peut-être immémorial, et puis constamment l'objet d'une possibilité quasiment indéterminée de mouvement, mais qui ne sont pas d'une certaine manière issus de ma propre, même pas sensibilité, mais de ma propre capacité simplement à bouger, enfin, bouger un peu, quoi. Et à bouger de telle sorte que le destin ou la séquence de temps qui m'est accordée ou l'espace comme ça que je peux peut-être prendre un peu en déployant un bras sans tout à fait immédiatement, par exemple, gêner Jean-Claude par mon espace dit vital, comment, à un moment donné, je pourrais prouver le fait que, voilà, un geste, une capacité, une possibilité de faire quelques gestes, ne va pas tout de suite être comme limité, par un environnement, quel qu'il soit, social, politique, et pas surdéterminé en tout cas par lui. Or, c'est toute la tâche, d'une certaine manière, de la danse, en tout cas de la danse dite moderne ou contemporaine, même si, d'une certaine manière, certaines origines de cette danse sont immémoriales et enfouies, même au-delà de nos mémoires, enfin, et même au-delà de nos archives, c'est cette capacité-là qui, quand même, donne à chacun la première préhension ou appréhension possible de ne pas empiéter sur le corps de l'autre quand je bouge, de ne pas sentir tout de suite le poids d'un jugement ou d'une instance comme ça qui viendrait déterminer la valeur ou l'évaluation de mon droit de bouger, quoi. Et puis surtout d'associer possiblement ce droit de bouger au droit de penser, au droit de parler, au droit de réfléchir ou de prendre un retrait. Or, il se fait que, et là j'ai vraiment, évidemment pas le temps du tout de faire un retour en arrière sur le plan historique, mais il se fait que malgré tout, la possibilité qui nous a été offerte à un moment donné, qui est une pure création féminine, c'est-à-dire ces quelques figures comme Isadora Duncan, Martha Graham, Marie Wingman, enfin Loy Fuller, il se fait qu'avec elle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et notamment aussi donc très près de la catastrophe de 14-18, dont je vais tenter aussi de montrer en quoi elle a été dévastatrice, mais aussi conductrice de quelque chose qui est encore notre héritage, il se fait que, voilà, au moment même d'ailleurs où Freud va écrire quasiment l'interprétation des rêves, l'esquisse, découvrir, entre guillemets, la dimension stricte de l'inconscient. Il se fait que c'est à ce moment-là que certaines femmes, très seules d'ailleurs, enfin, très isolées, prennent le risque et se disent que voilà, je peux tout d'un coup lancer un mouvement sans qu'il soit immédiatement ou a priori déterminé par une structure sociale, familiale, symbolique, politique ou je ne sais quoi. Et de voir comme ce geste-là, presque lancé dans le vide, hein, et pas jeté dans le vide, je tenterai d'y revenir rapidement, la danse ne jette rien, et ne rejette quelque part pas grand-chose. Et elle, on ne se jette pas à corps perdu dans un mouvement. Mais n'empêche que ces femmes ont eu cette sorte d'incroyable génie, d'une certaine façon, enfin, génie qui a été très rapidement reconnu, par exemple, par Rodin, de se dire, voilà, je lance un mouvement, éventuellement je peux le reprendre, en lancer un autre, peut-être faire une pression ici, retirer ma main ailleurs, et que cette sorte d'expérimentation à vif et à nu allait pourtant déterminer un ensemble de sensations de liberté d'être, ou de gestes, comme ça, dans l'espace et dans le temps, pas tout de suite et immédiatement, je veux dire, pas tout de suite repérable ou définissable, mais en tout cas, qui font qu'à un moment donné, la perception de l'espace autour, la relation à l'autre, la relation à la matière, la relation aux choses, se modifie de telle sorte que on peut presque dire que tout devient expérience et possiblement événement. Hors de toute habitude, d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas du tout ici développer, avec toutes les nuances que ça demanderait, ce qui s'est joué là, et notamment de façon très singulière chez Isadora Duncan, un peu plus tard Martha Graham, Doris Humphrey, mais en tout cas, pour aller au plus vite, et donc d'une façon trop schématique, un des énoncés qu'une de ces chorégraphes a formulé dans les années 30-40, c'est Doris Humphrey, et celui-ci, c'est que la danse est un arc tendu entre deux morts. C'est ce type de formulation que on ne reprend pas souvent quand on lit les biographies ou les textes que peuvent écrire certains chorégraphes. Souvent, ça ne laisse que très peu de dépôt dans le champ du savoir. Mais il n'empêche, cet arc tendu entre deux morts, à mes yeux en tout cas, suppose ou signifie deux choses possibles, quoi. c'est que d'une part, il s'agit ni de fondre son mouvement dans un premier pôle qui serait un pôle lui-même déjà mortel, et pas de fondre non plus l'arrivée ou la fin de son geste dans un pôle X ou Y, lui-même aussi mortel. Donc l'arc qui est dessiné d'une certaine façon par ou suggéré par Doris Humphrey, c'est un arc qui ne projette ou ne lance aucune flèche. C'est pas un arc d'Amazon ou de guerrier, c'est pas un arc, c'est juste la tension comme ça, plus ou moins relâchée, plus ou moins élastique, plus ou moins plastique comme ça. D'un arc qui a la possibilité à tout moment de donner la sensation que voilà, on peut revenir un tout petit peu en arrière, retendre quelque chose, peut-être un peu tendre vers, replier quelque chose, reprendre un peu de temps, comme ça. Paf, tout d'un coup lancer quelque chose de très rapidement, mais chaque fois, l'élasticité de l'arc fait que ni le pôle mortel de la fin, ni le pôle mortel du début ne prendra comme possession, d'une certaine manière, de la qualité du mouvement qui aura été produite ou des qualités de mouvement qui auront pu être produites ou créées. Et pour tenter juste, et là c'est trop rapide, mais en tout cas pour tenter de faire sentir ce que j'énonce à la suite de Doris Humphrey, c'est que peut-être sur des siècles et des siècles, l'appréhension de ce qu'il en est du mouvement, faire mouvement, a toujours été d'une certaine manière associée à l'idée d'aller de l'avant. Faire mouvement, c'est aller de l'avant. Voilà. Si je recule, c'est un mouvement de recul, mais il est déjà négativement interprété ou péjorativement interprété. Il y a de ce point de vue-là d'ailleurs une pièce absolument extraordinaire de Heinrich von Kleist qui s'appelle La bataille d'Arminius. Kleist, l'auteur du théâtre de marionnettes, qui est un des textes canoniques sur la qualité ou la nature même de ce qu'est le geste idéal ou le mouvement idéal ou la ligne de mouvement idéal, il y a un texte de lui donc où, très rapidement, j'ai essayé de faire vite, l'intrigue est celle-ci, c'est un prince germain qui, devant l'avancée des armées romaines, comme ça, décide de reculer pour attirer peu à peu l'armée romaine vers un étang et un marais où définitivement elle va s'enliser, quoi. Sauf que, en opérant cette sorte de stratégie ou de tactique, il perd au fur et à mesure la considération d'abord de ses pairs, c'est-à-dire des autres princes, de ses alliés. Sa femme estime que son mari est un lâche, ses enfants aussi. Donc il perd tout, toute crédibilité, toute possibilité comme ça d'être maintenu dans cette sorte de royauté initiale, de maîtrise dont il était parlé ce matin. Il perd donc toute figure d'une certaine manière, mais parce qu'il recule. Quoi. S'il avait fait face, c'est un terme sur lequel on pourrait revenir de manière incroyable, s'il avait fait face et perdu, il aurait été presque plus célébré que le fait d'avoir reculé et gagné. Cette sorte de transformation ou d'inversion, d'une certaine manière, de la possibilité de penser le mouvement, elle va prendre à un moment donné corps, alors c'est trop rapide et schématique, mais dans le fait qu'en danse, il y a autant de mouvements dans le fait de déployer un geste vers la droite, ouvrir une tête vers la gauche et de la pencher, de reculer, en même temps d'avancer des bras. Et toute cette dimension strictement et magnifiquement plastique du corps, qui place le mouvement et des intensités de mouvement ou des valeurs de mouvement à peu près dans toutes les attitudes ou postures possibles, a à un moment donné une sorte de reconnaissance légitime à être et à exister. Et cette capacité que notamment le corps féminin, évidemment, a une sorte de génie pour déployer, il faudrait là aussi développer très longuement les choses, notamment même en relisant certains textes de Freud, mais ça je ne vais pas le faire ici, elle est bizarrement quand même interdite, quoi, censurée. Et l'idée fondamentale que le mouvement, c'est aller de l'avant, que la vérité du mouvement, c'est de faire face. Et l'idée de la face, dire, reste comme prédominante dans les rapports même de vérité, de lâcheté, de je ne sais quoi. Enfin, c'est parce qu'on se fait face que tout d'un coup une certaine vérité se dit ou non, il y a une possibilité de faire un mouvement de côté qui est une manière d'accueillir et de dialoguer possiblement avec l'autre, avec le corps qui est à côté de moi. C'est pour ça que je reviendrai sur la notion d'à côté, de latéralité, qui n'est pas une manière de se défiler du tout, c'est simplement une façon de faire jouer la vérité de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus ondoyante, beaucoup moins saisissable, mais en même temps peut-être plus vraie, dans le rapport de corps à corps, hein, entre deux corps, ou entre plusieurs corps. Le corps à corps aussi lui-même devrait être repensé à partir de ce point-là. En tout cas, c'est le mouvement qui s'amorce étrangement à la fin du 19e, début du 20e siècle, et même va se déployer paradoxalement autour des années 1915-1916, avec des figures comme celle de Marie Wingman ou Labanne, au moment même où, sur les frontières franco-allemandes ou en Belgique ou dans le nord de la France, le rapport entre les hommes est stigmatisé par tranchée, assaut, repli, assaut, pour produire quels effets, entre autres, parmi d'autres, les milliers d'autres. Ben, ce que les 2-3 minutes de film que je vais vous montrer, qui sont des archives des années 1917, archives anglaises, mais on pourrait trouver des archives identiques en Allemagne et en France, font que tout d'un coup sont produits des états de corps pétrifiés, tétanisé, sans parfois même qu'il y ait de lésions physiologiques déterminables, et où de jeunes hommes, voilà, sont pris entre deux pôles aussi, effectivement, là. D'un côté, la catatonie absolue, voilà, des jeunes hommes de 20, 25 ans qui sont dans des positions fœtales et qui ne peuvent plus même être dépliés, quoi. Et d'autre part, une gestuelle maladive, enfin, compulsive, qui fait que, voilà, de jeunes hommes reviennent ne pouvant pas ne pas bouger, ne pas produire de gestes ou de gesticulations. Voilà les deux pôles, à mon avis, que quelqu'un comme Doris Humphrey tente simplement de nommer pour dire ces deux pôles-là qu'il faut littéralement éviter, quoi. Ne pas être du tout magnétisé, aimanté par ces deux pôles extrêmes où le corps paye le prix et de façon souvent absolument irréversible, quoi. Et toute création, me semble-t-il, de forme, toute pensée sur les forces, toute pensée sur le rêve, pourquoi pas, ne peut pas en arrière-fond ne pas tenir compte de cette sorte de terreur qui peut saisir un corps quand il est tout d'un coup, quoi, sujet à ce qu'on nomme le traumatisme ou à une sorte de choc qu'il ne peut pas du tout, ni évidemment contrôler, mais surtout accueillir, quoi. La hantise, d'ailleurs, qu'on retrouve magnifiquement chez Wingman, mais aussi, pourquoi pas, chez Rilke ou d'autres, c'est bien celle de l'inertie, tout d'un coup, d'un corps rendu inerte. Alors, toutes les autres pratiques sont évidemment des pratiques, qu'elles soient scientifiques, artistiques, hantées par le mouvement. Mais après tout, la danse, une certaine danse en tout cas, ne cesse pas de se poser la question: quel geste puis-je faire à tel moment, à quelles conditions puis-je bouger sans que, d'une certaine manière, très rapidement, mon mouvement soit l'objet d'une mainmise ou d'une capture, saisie par autre chose qu'elle. Et qui est toute la question, à mon avis, entre autres, non seulement de ce colloque, mais aussi de l'exposition qui est exposée effectivement au Palais de Tokyo. Donc, juste ces 3 minutes d'archives de 1917. Voilà, j'arrête là parce que le temps passe, mais enfin, c'est... je trouve des documents incroyablement troublants pour mille raisons, mais une des choses qui m'est apparue, enfin, Dominique saurait peut-être dans quel film de Hitchcock il y a un des personnages comme ça qui est agité par un kick comme ça et qui est criminel en même temps. Enfin, des films des années 30. La question que c'est, enfin, qui se poserait parmi d'autres encore, à quel moment, si on cherche une qualité de geste qui ne soit pas fondamentalement déjà répertoriée, programmée, à quel moment peut-on créer comme une sorte de mince écart qui fasse que ce geste ou ce mouvement qu'on va produire ne soit pas l'atroce caricature de ce qui est déjà agité là. Voilà. Comment démarquer un mouvement ou un geste? Ça peut être un geste de pensée, ça peut être un geste incroyablement, pourquoi pas, politique, social. Enfin, et je faisais référence hier dans une question après l'intervention de Catherine Perret au Nebenmensch, c'est-à-dire à l'homme qui est là près de l'enfant, ou à la présence humaine en tout cas, qui vient avant même le stade du miroir, possiblement simplement apaiser l'enfant qui vient de naître ou qui a quelques jours, quoi, et dont Freud d'une part, mais aussi Monique Schneider et des tas d'autres analystes, ou Dolto ou d'autres, ont précisé vraiment qu'effectivement quand l'enfant naît, il est, comment dire, uniquement quasiment sur la défensive, quoi. Il ne sait pas où ça va, qu'est-ce qu'il y a autour. Et d'une certaine manière, avant qu'on puisse même simplement le prendre dans les bras, ou il faudrait faire preuve d'une certaine manière, mais de façon incroyablement subtile, d'une approche pour l'enfant qui immédiatement, d'une certaine manière, ne le panique pas, quoi, ou ne lui fasse pas comprendre ou croire qu'il est dans un monde absolument paniquant, sans repère ni forme. Donc avant même peut-être de se présenter comme un corps constitué, consistant, avec une densité, quoi, faut peut-être avancer une main comme une ombre de main pour qu'ensuite le corps réel puisse venir même simplement toucher le crâne de l'enfant, ou son ventre, ou son dos, et qu'il y a là toute une sorte de spectre, comment dire, de nuanciation d'état de corps et de gestes comme ça, qui viennent peut-être peu à peu apprivoiser d'une certaine façon l'espace totalement inconnu dans lequel l'enfant surgit, quoi. Et ça peut paraître de fait naïf de ma part ou très, mais je crois que même plus tard, quand les, pour nous tous, hein, quand on a simplement à, non pas à faire un pas par habitude comme on le fait, quoi, mais simplement à faire un pas pensé, quoi. Vous verriez que chacun d'entre nous est d'une maladresse insigne, que le moindre pas à faire devient presque une sorte de tâche, je dirais, démesurée. Alors, heureusement, c'est surmonté par la vie quotidienne, par toutes sortes de choses, par des codes, enfin. Mais quand tout d'un coup on essaye simplement d'être un peu conscient de la qualité du geste que l'on fait, de où je pose mon pied, où je ne le pose pas, alors on est tout d'un coup, mais vraiment déstabilisé. Et tout le travail, d'une certaine manière, alors la pédagogique, entre autres, de la danse, consiste à rassurer, d'une certaine manière, à dire, mais oui, tu peux poser ton pas ici, poser peut-être un plan beaucoup, un petit peu plus étroit, un plan un peu plus large, mais et à expérimenter de soi-même, déjà, l'espace qui est le nôtre, en se disant, mon corps assure par moment, par instant, chacun de mes pas. Or, quel serait, parmi d'autres choses, hein, vraiment, l'une des ouvertures, si on arrivait à la... C'est presque une utopie pour moi, mais savoir où l'on pose son pied, où l'on pose son pas, pour le danseur, c'est savoir que je vais le poser là où précisément je ne vais rien écraser en le posant. Il y a... plusieurs représentations dans l'histoire de l'art de ça, quoi. Mais l'essentiel, quand je pose mon pied, c'est de le poser de telle sorte que il ne se pose pas sur un corps vulnérable, sur un corps d'enfant, par exemple, ou je ne sais quoi, de telle sorte qu'il n'écrase pas quelque chose sous son poids. Ça ne veut pas dire qu'il doit être absolument léger et flottant. Simplement, il y a une sorte d'évaluation qui fait que, ah, je peux poser mon pied là, je ne vais blesser personne. Ou même une présence. Et ce que j'aime, en l'occurrence, pour peut-être terminer sur ça, si le temps est trop court, mais c'est une petite tablette saphaïtique du IVe siècle après Jésus-Christ. Elle est d'une simplicité inouïe, en fait. Il y a un musicien, un danseur, et puis l'écriture en dessous. Et ce que je trouve, dans le fond, très bouleversant dans cette représentation, c'est le fait que le pas du danseur vienne juste flotter au-dessus de la lettre, mais ne pas peser sur la lettre. En retour, on peut espérer que la lettre elle-même ne vienne pas peser sur le pas du danseur, que l'écriture ne fasse pas qu'à un moment donné, chacun de mes gestes soit comme grévé d'une certaine manière par le poids d'une tradition scripturaire, quelle qu'elle soit, ou d'une tradition iconographique ou représentative. Ce que j'aime, ce sont aussi les distances qui séparent le musicien. Il y avait une référence à ça hier dans ton intervention, Arnaud. Il y a une distance entre la musique et le corps. Elle est simplement vitale au sens où c'est pas la musique qui va faire que je vais bouger, c'est pas le danseur qui va faire évidemment que ça va produire du son. C'est qu'à un moment donné, ces deux champs coexistent et puis peuvent simplement coexister de telle sorte qu'ils produisent parfois des points de rencontre, des sortes de points de coïncidence inespérés. Et là, il faudrait, je crois, vraiment relire le « Qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari ?» qui est une mine qui m'a accompagné tout l'été, entre autres. Mais où là, on sent bien que là, les points de coïncidence peuvent naître entre des éléments ou des, je sais pas ce qu'il appelle, des points de cosmos incroyables. Alors, j'ai donc terminé là-dessus. Il y a dans ce livre un moment inouï, et on peut passer le Saint-Jérôme dans l'an. Au moins ceci, mais le livre est d'une richesse extrême. Je cite Deleuze et Guattari. Suivant les termes familiers qu'on a pu prêter à un savant, l'événement ne se soucie pas de l'endroit où il est et se fiche de savoir depuis combien de temps il existe. Si bien que l'art et même la philosophie peuvent l'appréhender mieux que la science. Ce n'est plus le temps qui est entre deux instants. C'est l'événement qui est un entretemps. L'entretemps n'est pas de l'éternel, mais ce n'est pas non plus du temps, c'est du devenir. L'entretemps, l'événement, est toujours un temps mort, là où il ne se passe rien, une attente infinie qui est déjà infiniment passée, attente et réserve. Ce temps mort ne succède pas à ce qui arrive. Il coexiste avec l'instant ou le temps de l'accident, mais comme l'immensité du temps vide où on le voit encore à venir et déjà arrivé. Il se fait que dans les mémoires d'une des plus grandes chorégraphes du XXe siècle, qui s'appelait Martha Graham, elle évoque à un moment donné cette chose très énigmatique mais incroyablement, comment dire, décisive. Elle parle d'une pulsation du temps mort qui est aussi l'absence de temps. Je crois que si la danse, et c'est une très longue histoire et une très longue évolution, arrive effectivement à produire un mouvement, des gestes comme ça, sachant que d'une certaine manière, ces gestes ne sont pas strictement déterminés par la question du rythme, de la scansion, de la signification, du sens, mais que le geste effectivement touche à cette dimension, ou frôle plutôt, la dimension de l'entretemps, alors possiblement, et c'est un long, long parcours, elle s'approche de ce qui pourrait faire événement.